les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista. On y va. Très heureuse de vous retrouver dans votre magazine qui s'épanche sur les questions d'asile, d'immigration et d'intégration. Nous avons le plaisir de recevoir une dame qui fait ses premiers pas en France. Elle y est depuis décembre 2022 pour chercher soit à bénéficier de la protection par l'asile, donc obtenir le statut de réfugié, soit à bénéficier de la protection subsidiaire qui est attribuée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'obtention du statut de réfugié, mais pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il court dans son pays un risque réel de subir une atteinte grave. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Anna Louis, migrante d'origine camerounaise. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci d'accepter de répondre à toutes nos questions. J'aimerais toutefois vous rassurer que nous ne parlerons pas de votre récit d'asile. Ce qui nous intéresse, c'est votre premier instant en France. Dites-nous, quand vous étiez dans votre pays d'origine, le Cameroun, comment percevez-vous la France de loin ?
Déjà, merci beaucoup de me recevoir sur votre émission. J'aimerais dire que la France est un pays de base qui est très beau. Les gens ont la vision, quand ils sont dans leur pays, que c'est, tout est rose, c'est un lit de rose. Tout se passe bien quand tu arrives, tu t'adaptes facilement, tu trouves du travail facilement et tout. Les gens sont courtois, mais en fait, c'est pas ça. Parce que quand tu es dans ton pays, tu vois que la France est beau, mais quand tu arrives, c'est pas la même chose.
C'est-à-dire, okay, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vu qui vous a déplu ou étonné?
Le fait qu'il y a beaucoup de sans-abri, des gens qui viennent ici qui n'ont pas où rester, mais ils quittent quand même leur pays pour venir ici. Moi, je trouve que le fait de venir ici sans savoir où commencer, mieux tu restes dans ton pays et tu te cherches et avant de venir pour continuer ce que tu veux faire. C'est ce que je pense.
Donc, vous êtes contre l'immigration clandestine, c'est ça? De gens qui n'obtiennent pas de visa, mais qui viennent soit par la Méditerranée, en transitant dans beaucoup de pays d'Afrique avant de venir ici?
Effectivement, parce que beaucoup sont morts par ce moyen de venir en France. Beaucoup sont blessés, beaucoup ont perdu leur famille, leurs enfants et tout. Du coup, je pense que si tu n'as pas une vision, tu ne sais pas ce que tu vas faire dans un autre pays, mieux vaut rester dans ton pays. Et tu commences à travailler ou commences à te chercher avant d'aller de l'avant.
Et vous-même, pourquoi avez-vous choisi la France comme terre d'asile?
Bon, déjà, de base, la France n'a jamais été un pays qui passait dans ma tête. Parce que je préfère le Canada, pour être vrai, comme c'est un pays bilingue qui parle français et anglais. Et moi, je parle les deux langues. Du coup, la France n'a jamais été vraiment un pays pour moi de rêve, mais je suis venue à cause des conditions que mon pays m'obligeait à fuir.
Donc vous avez obtenu plus facilement le visa pour la France que pour le Canada, par exemple?
Exactement. Parce que la France, déjà, c'est vrai que pour obtenir le visa n'est pas facile, mais je pense qu'elle offre plus d'opportunités aux gens d'immigrer que le Canada. Donc j'ai saisi cette opportunité pour venir et fuir ces conditions qui m'obligeaient à partir de mon pays.
Donc vous avez obtenu un visa régulier et quand vous avez foulé le sol français, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Qui vous a accueilli? Comment est-ce que vous avez fait?
Bon, quand j'ai obtenu le visa français, déjà j'ai pas obtenu ça si facilement, de un, mais quand je l'ai obtenu, j'étais assez contente parce que déjà, pour ce qui se passait dans mon pays, c'était une bonne nouvelle pour moi de venir en France. Et tout, et tout, et tout. Mais je me disais que, bon, en venant en France, peut-être ça serait plus facile pour moi de m'adapter ou bien de m'intégrer, comme on dit. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Je suis venue en France, j'avais personne pour m'aider déjà. Mais Dieu merci, j'ai trouvé cette dame qui m'a aidée, qui m'a hébergée. pour un moment, mais après, quand elle a su que j'étais enceinte, voilà, elle ne pouvait plus me garder. En fait, c'est ça la France, chacun pour soi. Même si c'est ton frère de sang, ton frère du pays, du même pays, il ne peut pas t'aider longtemps. Parce que chacun cherche que là où il va bénéficier aussi. Du coup, elle ne pouvait plus me garder.
Parce que vous
Et
devenez une charge pour elle.
exactement, vous devenez une charge pour elle. Et la vie, ce n'est pas facile en tant que telle. Il y a des taxes à payer et autre chose. Donc voilà, elle ne pouvait plus me garder. Je suis devenue sans abri. Même le fait que j'avais toujours mes papiers, puisque j'avais un visa de 1 mois. Mais jusqu'à là, elle ne pouvait plus me garder. J'ai commencé à me chercher. Je suis allée au 115, mais vraiment, c'est inhabitable au 115. Du coup, comme
Inhabitable dans quel sens? Racontez-nous en
inhabitable,
détail.
c'est-à-dire, vu déjà ma condition, je pouvais pas y rester. Les lits là-bas, c'est pas des lits. On dirait que tu dors au sol, tu ne manges pas vraiment parce que tu dois te chercher à manger toi-même. Moi, c'est ce que je pense. Et aussi, tu dors avec plusieurs personnes dans la chambre, tu n'es pas en fait confortable. C'est pas la même chose. C'est pas. Tu te dis, mais tu quittes ton pays où tu dors confortablement sur ton lit pour venir dormir carrément au sol. En plus, tu es enceinte. Donc, ça te donne plus de douleur sur ton corps que quand tu étais, bref, que quand tu es enceinte. Et alors, j'ai dormi au 115 une nuit et après, le lendemain, je suis partie tout de suite parce que je pouvais plus. Et le fait que je suis bonne dans les recherches sur Internet et tout, c'est là où j'ai commencé à chercher sur Internet s'il y avait des foyers ou bien des associations qui aidaient des gens qui n'ont pas de papier ou bien qui sont sans abri. Et je suis tombée sur plusieurs foyers, au moins 10. J'ai contacté par email, par appel. D'autres ne pouvaient pas me prendre parce que j'étais irrégulier déjà et j'avais pas des papiers et tout. Donc, un beau jour, je suis tombée sur le foyer Saint-Benoît. Et c'est là où ils m'ont répondu par email. Ils ont envoyé leur numéro que je pouvais leur contacter. Mais en fait, c'était le numéro fixe. C'était pas vraiment personnel. Alors un jour, un autre foyer, je crois que le foyer Bethléem, ils m'ont donné le numéro de l'un des prêtres de cette maison, de ce foyer. Et je lui ai contacté, j'ai parlé de ma situation, comment j'étais enceinte, jeune dame ici qui n'a pas des papiers et tout, et tout, et tout. Et il a eu la gentillesse de m'aider. Ils m'ont accueilli ici gentiment. Et c'est vraiment, ça n'a vraiment rien à voir avec le 115. C'est très différent. C'est bien la vie commune avec des gens qui te ressemblent, des gens qui ont des différentes histoires, des gens qui peuvent t'aider à avancer avec tes dossiers et tout. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, moi, je ne travaille pas, j'ai pas de papier et tout. Mais quand je suis ici, quand je suis au foyer Benoît, Saint-Benoît, là, je me sens comme quelqu'un qui est chez moi, dans mon pays, parce que c'est comme la famille. C'est comme la famille. Et même si tu n'as pas d'argent, au moins, tu vis.
Tu
Tu
manges
vis,
et
tu
gratuitement.
manges, tu dors tranquillement. Et aussi, ce qui m'a plu particulièrement dans ce foyer, c'est le fait que tu es plus rapproché du Seigneur. Parce que particulièrement, moi, je suis chrétienne et je suis catholique. Donc, je me sens plus rapprochée de Dieu quand je suis ici. Et surtout pour mon enfant aussi, c'est bien. Parce qu'il y a tellement de mauvaises choses qui se passent d'ailleurs, ça c'est clair. Et alors, voilà, ça me convient assez bien.
Et parlons de votre parcours administratif. Ça a été comment pour les rendez-vous?
Déjà, quand je sens comme si, quand je suis venue au foyer ici, tout a commencé à s'ouvrir. Genre, mes papiers, des routes sont ouvertes qui étaient fermées en fait. Donc, même du fait que j'étais chez une Camerounaise, qui est Camerounaise comme moi, qui est ici en France depuis des années, mais elle ne connaît rien du tout en fait. Elle est dans sa petite vie, elle ne connaît rien qui se passe dehors. Elle ne pouvait pas m'aider sur le côté administratif. Mais quand je suis venue ici, j'ai eu la facilité d'obtenir des rendez-vous facilement à Paris, de commencer ma démarche. Et en moins d'une semaine, tout était déjà fait. Et voilà, je me suis retrouvée avec un récépissé qui me permet de rester en France plus longtemps. Et ça m'a vraiment facilité les choses depuis que je suis arrivée ici. Donc voilà.
Et vous êtes fait des amis ici en Île-de-France?
Côté amis, non. Déjà, je suis quelqu'un qui n'est pas trop ami. Genre, je suis sociable, oui, mais des amis, j'aime pas trop, si je peux dire ça. Parce que même depuis mon pays, je suis déjà plus travail, objectif, et tu marches sur une route. Tu cherches ce que tu veux pour l'obtenir. Et pour l'obtenir, il ne faut pas garder trop de gens devant toi, à côté de toi. Donc, et moins encore en France, parce que quand tu es dans un pays étranger, déjà, moi je pense que personne n'est ton ami. Tu peux pas garder des gens proches de toi parce que, comment dire, les gens n'ont pas toujours une bonne intention. Tu peux dire que c'est comme de la famille, s'ils t'aident, mais en fait, à la fin, ils peuvent te faire du mal. Donc, tu peux pas compter sur eux. Donc, ici en Île-de-France, j'ai pas vraiment d'amis.
Et dans votre pays d'origine, vous travaillez?
Par rapport au côté travail, oui, dans mon pays d'origine, je travaillais.
Dans quoi?
J'étais responsable marketing dans une entreprise qui existe depuis 8 ans, bien connue. Et ça se passait plutôt bien, je gagnais bien ma vie et tout et tout. Mais vu que le Cameroun n'est pas si rose que ça, avec des problèmes qui s'est passé là-bas, avec la guerre qui est là-bas et jusqu'à maintenant, les gens ne savent pas trop, mais en fait les gens souffrent, les gens perdent leur vie, les gens comment dire, se font tuer, se font kidnapper et tout et tout et tout. Donc j'ai dû laisser ce beau travail pour être ici, malheureusement.
Et ça vous arrive aussi d'y penser? D'y penser à votre vie que vous meniez au Cameroun?
Oui, bien sûr. Ça m'arrive beaucoup d'y penser parce que déjà, c'est là où se trouve la famille. On est toujours mieux à côté de la famille que loin de la famille. Mais quand tu ne peux plus rester à côté de la famille, il faut y aller. Déjà, soit pour te protéger ou soit pour te chercher pour leur futur aussi.
Et vous avez des contacts avec votre famille?
Oui, je parle bien avec ma mère, mon père, mes frères et sœurs.
Et qu'est-ce qu'ils disent à propos de votre départ, de votre
Bon,
séjour ici en France?
séjour ici en France. Bon, comme j'ai dit au début, la France n'a jamais été le pays de mes rêves et aussi de leur. Donc, ils n'aiment pas trop la France
Pourquoi?
aussi. Bon, je sais pas, pour leur avis, je sais pas trop. Mais pour moi, comme j'ai dit,
Et comme vous êtes bilingue, vous parlez français,
oui, comme
anglais.
c'est un pays juste français et tout, moi je préfère aussi, je préfère plus l'anglais. Du coup, ça ne me convient pas trop comme personne avec la culture de la France et tout et tout. Moi, je pense que ça ne me convient pas trop. Mais avec le temps, on s'adapte de toute façon. Donc, à ce qui...
Mais du fait d'être bilingue, vous ne pensez pas que c'est vraiment un atout pour vous aussi de rester ici en France, travailler dans des entreprises par exemple?
Exactement. Si c'est côté travail, oui, ça serait très avantageux pour moi. Pour travailler en France étant bilingue et aussi continuer les études. Ça serait bien pour faire ça aussi. Donc,
Donc continuer dans le marketing.
oui, dans le marketing, commerce international, c'est un peu dans le même sens. Donc, si j'ai l'opportunité, si j'obtiens mes papiers, si Dieu le veut, voilà, je vais continuer les études et peut-être trouver un travail.
Et quel département vous tente d'y habiter un jour?
Bon, pour le moment, j'ai pas visité trop d'endroits, juste Paris, le côté côté-ci de Paris et Montargis, donc je connais pas trop d'autres endroits, mais j'aime bien Strasbourg, comme c'est à côté de l'Allemagne et il n'y a pas trop des Noirs. Je suis pas raciste, hein, des Noirs, mais en fait, je préfère, si je quitte mon pays où il y a des Noirs, je préfère être dans un pays, dans un endroit où c'est un peu éloigné. Des gens qui me ressemblent. Je sais pas
Pourquoi? C'est pour
pourquoi,
faciliter votre intégration ou bien vous voulez fuir les habitudes
Non. En fait, c'est parce que moi, j'ai cette perception que les Noirs qui sont ici, surtout ceux qui viennent peut-être de ton pays, sont, comment dire, ne veulent pas toujours ton bien. Ils sont plus, comment dire, comme j'ai dit, chacun pour soi. Pourtant, d'autres personnes qui ne sont pas forcément de ton pays t'aident plus facilement même que tes propres frères. Donc, je préfère ne pas être à côté d'eux. Donc, c'est un peu ça.
Et ici en France, vous n'avez pas de connaissances des gens que vous avez laissés au pays qui sont ici. Vous ne les connaissez pas? Vous n'avez pas leur contact?
Bon, des amis peut-être
Oui, par
qui ont
exemple.
fréquenté avec moi au pays, qui sont venus depuis des années ici. Mais moi particulièrement, je suis pas trop en contact avec eux. Ça m'intéresse pas trop de les voir et de faire connaissance plus ou qu'ils sachent ma vie. Non. Je sais pas, ça m'intéresse pas vraiment. Mais ouais, il y a des amis ici qui ont fréquenté avec moi. Ce sont juste des camarades de classe. Comme j'ai dit, moi je suis pas trop amie.
Et ça vous arrive aussi de vous balader souvent ici en France pour découvrir les espaces culturels, historiques de la France, ça vous arrive?
Bon, pour le moment, comme j'ai pas vraiment avec qui découvrir ces endroits et tout, je visite, je sors pas vraiment. Je visite pas vraiment le fond de la France, comme les gens disent qu'il y a des côtés vraiment beaux, comme sur une carte postale et tout, mais vraiment, j'ai pas vraiment visité ce côté de la France là. Le côté de la France où j'ai visité, c'est là où les gens souffrent. Donc, j'espère qu'un jour, oui. Je pourrais visiter tous ces beaux endroits et avec la bonne personne ou les bonnes personnes.
Alors, connaissez-vous ou avez-vous connaissance de risques que un migrant encourt, si par exemple n'obtient pas le statut de réfugié, tout ce qui va après ça, je peux dire entre guillemets, la souffrance qui vient après ça?
Bon, qu'est-ce que je peux dire? Beaucoup de
Quelqu'un
personnes.
vous a déjà parlé de son témoignage en France, de son vécu, de son parcours.
Oui, genre, si tu n'obtiens pas le statut de réfugié, qu'est-ce que tu vas faire après? Bon, je suis de ces personnes qui pensent, qui a la foi, beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, ni comment demain serait, ou comment je. Ou si je veux obtenir ce que je veux, mais je marche toujours avec la foi et la positivité. Donc, si je fais quelque chose, je mets en tête que ça va marcher d'abord, avant de dire que ça va pas marcher. Et si ça ne marche pas, je pense que le Dieu que je sers, désolé d'en parler, il est toujours là et il va toujours trouver une solution pour moi parce qu'il ne te met pas dans une situation où il ne peut pas te retirer. Voilà. Donc, je pense que si je n'obtiens pas le statut de réfugié, ce que je ne souhaite pas, je pense qu'il y aura d'autres opportunités pour moi. Et surtout avec ma fille qui vient. Certainement, je pense qu'il y aura d'autres moyens. Et aussi avec les études que j'ai déjà faites dans mon pays, le fait que j'ai travaillé et j'ai de l'expérience dans certains domaines, je pourrais commencer à trouver du travail et peut-être un CDI. Et voilà, m'intégrer, chercher un titre de séjour et tout. Je pense qu'il y a plusieurs moyens. Il faut juste connaître, chercher. Parce que la France a beaucoup d'opportunités, tellement d'opportunités, que le seul moyen de les obtenir ou de les trouver, c'est de bien chercher où il faut.
Je signale quand même à nos auditeurs et auditrices qu'au moment où nous enregistrons cette émission, il y a un vent violent, d'où vous entendez de bruits de fond. Alors, Anna-Louise, est-ce votre première grossesse?
Effectivement, c'est ma première grossesse, étant que je suis bien jeune.
Et comment vous la vivez?
Je m'attendais pas d'abord à cette grossesse-là.
Donc, grossesse surprise.
Ouais, grossesse, on dirait une surprise. Donc, ouais, j'ai décidé de la garder et voilà, on verra bien la suite de comment ça va se passer avec elle. Je sais pas trop parce que j'étais pas trop prête et je savais pas quoi faire quand c'est arrivé. Mais j'ai décidé de le garder parce que, bon, tout se passe devant et on verra bien si ça se passe bien.
Et vous êtes suivie au niveau social ici en France pour votre grossesse?
Ah oui, côté social aussi, c'est aussi grâce au foyer Saint-Benoît qui m'a accueilli, qui m'a montré le chemin vers une assistante sociale qui m'a aidée avec les démarches à l'hôpital pour l'AME, pour pouvoir accoucher sans payer de frais. Bref, l'aide médicale d'État, c'est ça. Voilà, donc tout se passe bien pour le moment côté hôpital pour ma grossesse, tout se passe bien.
Et un jour, quand vous obtiendrez vos papiers, allez-vous retourner investir en Afrique, au Cameroun précisément?
Clairement, ça c'est très clair. Ouais, je vais aller investir dans mon pays, déjà parce que ma famille s'y trouve et aussi parce que j'ai tellement d'ambition pour quelqu'un qui comment dire, Je m'appelle moi-même, je me dis je suis businesswoman. Donc j'aimerais bien investir, que ce soit dans mon pays ou bien ici, mais d'abord dans mon pays. Voilà.
Et pourquoi seulement dans votre pays? Pourquoi pas le faire ici aussi en France?
Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien investir dans mon pays et ici en France, mais d'abord dans mon pays, parce que c'est ma terre natale. Et aussi, là-bas, je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui va venir te dire « Ah voilà, il faut quitter, il faut partir d'ici, il faut faire ci, il faut faire ça. » Par contre, ici, les côtés administratifs, c'est un peu trop difficile, avec des taxes aussi, des impôts, des trucs comme ça, qui ne te lâchent pas. Ça peut devenir dépressif, ça peut devenir stressant et tout. Par contre, si tu fais dans ton pays, je ne pense pas que quelqu'un va venir te retirer de là. Tu peux facilement commencer. Si tu ne finis pas, ça reste. Par contre, ici, ce n'est pas le cas.
Êtes-vous pour ou contre l'immigration?
Je suis pour l'immigration et contre.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, si tu viens, c'est-à-dire, si tu veux venir dans un pays, c'est vrai qu'il y a des opportunités, beaucoup d'ouvertures qui peuvent t'amener loin. Mais si tu n'as pas d'objectif, si tu ne sais pas où commencer, ou bien où chercher, ou bien où partir, je pense que tu vas devenir encore pire que quand tu étais dans ton pays. Donc, mieux vaut rester. Donc, je pense que si tu pars dans un pays et tu décides de prendre des moyens de bateau ou bien de moyens pas très agréables, je pense qu'il faut marcher avec un objectif.
Donc, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui prennent ces risques-là, qui n'ont pas de visa, mais qui veulent atteindre l'Europe par tous les moyens?
Moi, je pense que en Afrique, c'est vrai que la vie en Afrique n'est pas facile, mais l'Afrique est tellement riche, et si les gens réfléchissaient plus ou bien décidaient de devenir plus actif dans la vie sociale, c'est-à-dire pas paresseux, je pense que ça serait mieux. Bon, comment est-ce que j'explique ça? Les gens se disent que quand ils vont venir en Europe, ou bien en prenant ce bateau-là et en venant ici, ils vont avoir une vie plus facile. Ou bien quand ils vont arriver, tout sera sur un plateau. Leurs frères ici vont les aider et tout. Mais ce n'est pas le cas. Il faut que les gens regardent la réalité. La réalité et ce qu'on regarde à la télé, ce n'est pas la même chose du tout. C'est très différent. Donc avant de prendre la route pour aller dans une destination, il faut être conscient de la réalité que cet endroit va t'apporter. Donc il faut être très conscient de là où tu pars d'abord avant de prendre une route. Donc, je pense que c'est très risqué de prendre une route comme ça pour venir dans un pays où tu ne sais même pas où tu vas commencer ou ce que tu vas faire. Mieux vaut rester dans ton pays, tu planifies ta vie, tu commences avec ce que tu commences d'abord avec ce que tu n'as pas, tu commences peu à peu avant d'aller chercher des grandes choses. Parce que, en fait, ça va avec pour tout le monde. Hein. Même si tu ne prends pas le bateau, ou même si tu viens normalement avec un visa, il y a des gens qui peuvent venir avec un visa, par exemple, de 1 an, ou bien de 2 ans, de 10 ans même, disons, qui obtient le statut de 10 ans. Mais en fait, ils ne font rien avec. Et après, ça t'a aidé en quoi? Donc, du coup, je pense qu'il faut toujours marcher avec un objectif. Si tu veux obtenir quelque chose dans la vie, il faut savoir ce que tu veux faire avec ce que tu cherches. Donc, ce que ce soit sans papier ou avec papier, il faut savoir marcher avec des objectifs. Parce que tu peux avoir des papiers, mais tu ne fais pas les choses bien. Et après, tes papiers finissent et tu deviens comme les gens qui sont venus sans papier. Du coup, votre situation est pareille. Donc, il faut savoir vraiment où tu pars, te fixer des objectifs et ne pas compter sur des gens. Parce que quand tu viens ici, c'est une vie assez restreinte, chacun pour soi. Les gens ne s'ouvrent pas facilement, n'aident pas trop les gens, parce que ce qui est les gens qui aident les gens, c'est le gouvernement, pas les particuliers. C'est très rare de voir des privés comme ça qui aident des gens sans abri et des familles sans papier avec des enfants et tout, c'est rare. Donc vraiment, avant que quelqu'un prenne la route pour aller quelque part, il faut savoir ce qu'il veut ou
Et au début de cette émission, vous avez dit que quand vous êtes venu en France pour la première fois, vous avez vu des sans-abri, des sans-papiers dehors. Qu'est-ce que ça vous a fait? Donc, au Cameroun, il n'y a pas de sans-abri? Ou bien le nombre est massif ici en France?
Oui, moi je pense que le nombre ici en France est plus massif. C'est-à-dire, les gens d'abord ont comment dire, les gens pensent que l'Afrique est un pays pauvre, est un continent pauvre déjà à la base, qui les gens ont faim, les gens ne mangent pas bien et tout et tout et tout. Donc ils se disent que l'Europe c'est le contraire.
L'Eldorado, oui.
Voilà, c'est le contraire. Par contre, c'est pas le cas. Donc quand tu viens et tu vois ce genre de choses, c'est vraiment surprenant. Tu vois, des gens ici sont même plus sans-abri que dans leur propre pays. Au moins, ce pays, si tu n'as pas où dormir, ou si tu n'as pas de quoi manger, ou bien si tu n'as pas de quoi te vêtir, ou bien aller à l'école, je pense qu'il y a des gens à côté, des voisins, la famille, même des amis, ils peuvent t'aider, ils peuvent t'héberger, ils peuvent te prendre. Ils ne vont pas dire que non, c'est une charge pour moi, il faut payer les impôts, il faut payer les taxes, machin et tout. Par contre, ici, c'est le cas. Tu vas voir rarement des gens qui vont t'aider. Donc, je pense qu'ici, il y a plus de sans-abri que même en Afrique. Parce que les gens viennent se renfermer ici, se disant que l'Afrique n'est pas bien. Par contre, ici, c'est pire quand tu ne sais pas où tu vas.
Mais le peu de temps que vous avez passé ici en France, est-ce que vous avez essayé de comparer au fait les situations entre le Cameroun et la France, les avantages d'être en France? C'est quoi selon vous qui manque par exemple au Cameroun?
Voilà, de ce côté avantage, je pense que la France a beaucoup d'avantages. Ça, c'est clair. Laissons le côté mauvais de la France. La France, comment dire, offre une vie très bénéfique et très simple pour ses habitants. C'est-à-dire une facilité à la santé, la protection sociale, l'éducation que ça donne à l'école et tout. Donc, je pense que contrairement à l'Afrique, surtout sur le côté santé, la France, elle est très bien. Parce qu'en Afrique, par exemple, une femme va venir avec un problème, elle est mourante, mais il faut qu'elle paye avant qu'on la prenne en charge. Par contre, ça doit pas être comme ça. Mais en France, c'est le contraire. Tu peux venir, tu n'as pas de quoi payer, mais on ne te demande même pas de l'argent avant de te prendre en charge. On va te prendre en charge, faire tout, 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 tout. Et si après, tu n'as pas de l'argent, de quoi payer, on t'établit l'AME. Et voilà. Ou bien tu payes après. Mais en Afrique, c'est le contraire. Les gens meurent beaucoup. Les gens meurent beaucoup par, je ne sais pas si c'est un manque de conscience ou c'est un manque de soins ou c'est un manque de quoi, mais vraiment, je pense que leur mentalité est un peu en arrière et un peu bas
Et
par rapport
comment
aux
relever ces
Français.
défis-là en Afrique?
Bon, comment on va relever ça? Peut-être dans 10 ans, je ne sais pas si ça va se faire. Franchement, parce que on a tout ce qu'il faut, on a les ressources qu'il faut, on est riche en Afrique. On est riche dans beaucoup de côtés, sur beaucoup de points. Mais en fait, on ne sait pas quoi faire avec ces richesses-là. On ne sait pas quoi faire avec soit cet argent, soit ces ressources, ou soit ces personnes. On aime juste profiter, en fait. On aime profiter comment dire, des gens ou bien des situations sans travailler, en fait. C'est ça qui est bien en France, parce que les gens ne sont pas paresseux. Les gens travaillent, même si c'est quoi, même si c'est quel travail, ils vont travailler. Et ici,
Mais en Afrique aussi, les gens travaillent. Peut-être que les gens sont beaucoup plus découragés par rapport à l'attitude des politiques et des dirigeants aussi.
ça c'est vrai. C'est vrai que les gens sont déçus par rapport au gouvernement. C'est ça qui gâte l'Afrique, en fait. C'est les dirigeants. C'est ceux qui dirigent l'Afrique qui gâtent l'Afrique. Du coup, la France gagne sur ce côté-là, parce que même dans 10 ans, désolé, mais vraiment l'Afrique ne pourra pas y arriver si on ne change pas la façon dont les politiciens se chargent de ce pays, de ce continent-là. Franchement, ça ne va pas changer du tout. ou particulièrement du Cameroun, ça ne va pas changer. Déjà, on a un président qui est là depuis des années, il est déjà fatigué, mais qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Par contre,
Mais
quand
c'est à
tu es
vous, la
président,
population camerounaise, d'agir.
oui, on le fait, mais on a ce qu'on appelle la corruption, qui est très, très, très récurrent au Cameroun. Et c'est ça qui gâte en fait le pays. Même si tu fais comment, une voix, tu vas pas, une personne va parler, deux personnes vont parler, on va soit les tuer, soit les emprisonner, soit après 2 jours, tu ne sais même plus où cette personne se trouve. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire en Afrique. Même si tu parles, tu peux pas parce que les autres auront peur de parler. Donc en fait, je pense que si notre côté politique change, l'Afrique sera un pays meilleur. Mais pour le moment, la France ou l'Europe en entier reste mieux.
Et nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Avez-vous un dernier mot?
Bon, je crois que j'ai beaucoup parlé, hein. Mais qu'est-ce que je dirais? Je dirais que avant d'aller quelque part, il faut avoir un objectif, toujours, et marcher avec la foi. Voilà, c'est ce que je dirais. Et l'Europe n'est pas un lit de roses, hein, comme tout le monde le pense. Si tu peux manger dans ton pays, te vêtir et avoir un toit sur ta tête, alors reste pour le moment. Ouais.
Bien, premier instant de Anna-Louise en France et le thème de l'émission que nous avons eu à aborder ce soir. Merci beaucoup, Madame, d'avoir accepté notre invitation. Et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite.
Merci et mère à vous aussi.
Et à vous, fidèles auditeurs et auditrices, nous allons certainement nous retrouver la fois prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista.